Les grands feuilletons de France Culture.
Le crime d'Orzival.
D'après l'œuvre d'Émile Gaboriau. Adaptation Henri Weitzman.
Aujourd'hui, 12e épisode, la maladie de Sauvresy.
Résumé du 11e épisode.
Sauvresy a tenté de rassurer Jenny Fancy.
Sceptique sur la réalité du mariage d'Hector, depuis qu'elle a trouvé dans une poche de sa veste un billet
écrit par une femme qui ne peut être que sa maîtresse.
Sauvresy prend connaissance de ce billet et y reconnaît l'écriture de sa propre femme, Berthe.
Il se maîtrise devant Jenny et regagne le Valfeuillu en méditant une vengeance.
À peine rentré,
il tombe malade et reste alité.
De son côté, Berthe reproche toujours à Hector ses visites trop fréquentes à Laurence Courtois.
Mais le prie cependant de lui laisser le temps de s'habituer à l'idée du mariage et d'attendre un peu avant de se prononcer officiellement.
Au Valfeuillu.
Bonne nouvelle. Clément se sent beaucoup mieux ce soir. Nous avons bavardé, il s'est montré très gai. Dès qu'il sera sur pied, il veut partir avec toi pour l'Italie. Il m'a longuement serré la main en me remerciant de te seconder ainsi. Et confidentiellement, il m'a montré un superbe diamant qu'il a acheté et fait sertir par le truchement de son notaire chez les célèbres frères Vincent de la rue Saint-Honoré. Un solitaire jetant mille feux dont il te fera cadeau pour fêter sa guérison qui ne saurait tarder.
Et tu t'en réjouis?
Bien sûr.
Pour lui ou pour toi?
Quelle question! Pour lui, pour toi? Pour moi, pour nous.
Et aussi pour Mademoiselle Courtois, n'est-ce pas? Car c'est surtout à elle et à ton mariage possible que tu penses.
Écoute, Berthe, ne m'as-tu pas permis d'espérer avec le rétablissement de Sauvresy?
Effectivement, je t'ai prié d'attendre avant de te déclarer et tu as bien fait de ne pas te hâter. Figure-toi que je connais une femme qui t'apporterait non pas un, mais 3 millions de dot.
Mais...
Tu m'avais bien affirmé que c'est la dot que tu convoitais, non pas Laurence.
Certes. Et quelle est cette femme?
Je suis la seule héritière de Clément. Il peut mourir. Je puis être veuve demain.
Mais Dieu merci, Sauvresy se porte à merveille. Du moins, il n'est plus le malade qu'on craignait.
Qu'en sais-tu? Il est à la merci d'une rechute. Ne te réjouis pas si vite.
Dis-moi... La pensée de me voir à une autre te ferait-elle souhaiter la mort de ton mari?
Ah, je vois le docteur sur le perron. Excuse-moi, je vais aller l'accueillir.
Vous me voyez perplexe, mon cher comte. Il y a deux jours, je croyais Monsieur Sauvresy sur le chemin de la convalescence. Cette rechute m'étonne d'autant plus qu'elle présente de nouveaux aspects de la maladie qui avait failli l'emporter une première fois. C'est hier, dites-vous, que soudainement...
Oui, docteur. Madame Sauvresy et moi avions dîné dans sa chambre. Mmh. Il plaisantait, il a même réclamé un doigt de ce quinquina que vous l'aviez autorisé à prendre. Un peu plus tard, il s'est plaint de picotements à la peau, de vertiges, de commotions convulsives et de douleurs faciales. Il disait aussi sentir comme un affreux goût de poivre qui lui faisait sans cesse ouvrir et fermer la bouche. C'est pourquoi je me suis permis de vous expédier une dépêche télégraphique.
Bizarre. Vous aviez pris votre repas ensemble et il a mangé la même chose que vous.
Oui, mais très légèrement.
Et ni l'un ni l'autre n'avaient éprouvé la moindre gêne, la moindre indisposition.
Nullement, docteur.
Oui. Probablement un virus. En attendant, je lui ai fait absorber de la morphine pour calmer les douleurs. Ce qui m'étonne, c'est l'absence de fièvre et sa parfaite lucidité. En toute franchise, vous qui êtes son ami, je dois dire que son état me préoccupe au point que je reviendrai demain avec mon confrère, le docteur Hérold. Car devant un cas pareil, il vaut mieux se concerter pour établir un diagnostic. Ne faites pas part à Madame Sauvresy de mon inquiétude. Il ne faut pas mettre une fois encore sa sensibilité à l'épreuve. Monsieur Sauvresy m'a dit son dévouement. Et le vôtre aussi, cher monsieur. Ils vous appellent tous deux ses anges gardiens. Continuez. L'amour et l'amitié font parfois plus que la médecine. Mais c'est Dieu qui décide. À demain.
Il semble singulier que dans l'état où il est, Clément trouve le moyen de faire venir ses hommes d'affaires et de s'entretenir avec eux pendant des heures dans sa chambre. En ce moment, c'est le juge de paix qui est à ses côtés.
Planta vient presque tous les jours, c'est normal. Il était un grand ami de son père.
Et aussi son avoué. Il me faut un conseil, Hector. Et seul, tu peux me le donner. Comment savoir si dans ces derniers jours... Clément n'a pas changé ses dispositions à mon égard.
Je ne comprends pas.
Je t'ai déjà dit que par un testament dont j'ai la copie, Sauvresy me lègue toute sa fortune. Je tremble qu'il ne l'ait révoquée.
Quelle idée!
Mais j'ai des raisons pour craindre. La présence au Valfeuillu de tous ces gens de loi ne trahit-elle pas quelques machinations perfides?
Que vas-tu chercher là?
D'un trait de plume, cet homme peut me ruiner. Sais-tu qu'il peut m'enlever ses millions et me réduire aux 50 000 francs de ma dot?
Mais il ne le fera pas. Il t'aime.
Qui te garantit qu'il ne le fera pas? Je t'ai annoncé 3 millions, c'est 3 millions que je veux. Non pour moi, Hector, mais pour toi. Je les veux et je les aurai. Mais comment savoir? Comment?
Eh bien, il faut patienter, attendre.
Attendre quoi? Qu'il soit mort?
Ne parle pas ainsi.
Pourquoi donc? Il n'a plus 8 jours à vivre. Et voici qui m'assure que je ne me trompe pas.
Quoi? Oh! Mais non, je n'ose... Comment? Du poison?
Oui, du poison.
Mais tu ne t'en es pas servi?
Si, je m'en suis servi.
Eh bien, tu ne t'en serviras plus.
Avant d'agir, réfléchis! Tu es mon amant, j'en fournirai la preuve. À qui feras-tu croire qu'étant mon amant, tu n'es pas mon complice? Va, va, parle! Demande à faire des révélations. Quoi qu'il arrive, dans le bonheur ou dans l'infamie, nous ne serons plus séparés. Nos destinées sont pareilles, liées.
Perdu, je suis perdu.
Tu as peur, tu trembles. Perdu, parce que je serai ta femme. Perdu, parce que nous pourrons nous aimer librement à la face du monde. Perdu! Mais tu ne comprends donc pas que je suis lasse de craindre, lasse de feindre.
Toi, capable d'un tel crime?
Tu ne pensais peut-être pas commettre un crime toi-même? Le jour où tu m'as prise à ton ami Sauvresy qui t'avait sauvé la vie? Tu savais pourtant combien il m'aimait. Pour lui, entre mourir de cette façon et me perdre, il n'eût pas hésité.
Mais puisqu'il ne sait rien...
Tu te trompes. Sauvre-y, c'est tout.
C'est impossible.
Tout, te dis-je. Et cela depuis le jour où il est rentré si tard de la chasse et qu'il s'est mis au lit avec de la fièvre. Te souvient-il qu'observant son regard, je t'ai dit, Hector, mon mari se doute de quelque chose. Te rappelles-tu les marques de pas dans le vestibule? Les flaques de neige fondues le soir où j'étais allée te rejoindre sous la verrière? Je suis sûre qu'il nous a épiés. Enfin, veux-tu une preuve plus décisive? Tiens, examine cette lettre que j'ai retrouvée froissée et mouillée dans la poche d'un de ses vêtements. Un billet que je t'avais adressé.
Ne va pas demain à Petitbourg, ou plutôt reviens avant déjeuner. Il vient de me dire à l'instant qu'il lui faut aller à Melun et qu'il rentrera tard, toute une journée. Comment a-t-il pu se le procurer? C'est une fatalité. Il n'y a qu'une solution, Berthe, rompre. Je peux m'éloigner.
Trop tard! Crois-moi, Hector, c'est notre vie aujourd'hui que nous défendons. Tu ne sais pas ce dont Clément est capable. S'il n'a rien dit, rien laissé voir de son ressentiment, c'est qu'il médite quelque redoutable projet de vengeance.
Mais que faire, alors que faire?
Connaître les dispositions qu'il peut avoir prises.
Je ne vois pas comment.
C'est pourtant ce que j'étais venue te demander. Mais tu es un lâche. Laisse-moi agir. Ne t'occupe plus de rien, je prends tout sur moi.
Mais...
Assez! Il ne faut pas qu'il puisse nous ruiner. Je n'ai qu'un moyen.
Non, pas ça. On peut avoir des soupçons.
Qui?
Je ne sais pas, moi. Tout le monde, les domestiques, et surtout le médecin.
Il n'y a nul danger. Et quand même...
On chercherait, Berthe, y songes-tu? On se livrerait aux plus minutieuses investigations.
On peut chercher, expérimenter, on ne trouvera rien. T'imagines-tu par hasard que j'emploie niaisement de l'arsenic?
Oh, tais-toi!
J'ai su me procurer un de ces poisons inconnus encore, qui défient toutes les analyses. Un de ces poisons dont bien des médecins à cette heure, parmi les plus savants, ne peuvent même pas dire les symptômes.
Mais où l'as-tu pris?
Que t'importe. Mes précautions sont telles que celui qui me l'a fourni court les mêmes dangers que moi, et il le sait. Rien à craindre de ce côté-là. Je l'ai payé assez cher.
Et depuis ce temps dans la souffrance, c'est bien lent.
C'est lent parce que cela me convient ainsi. Avant tout, il faut que je sache à quoi m'en tenir au sujet du testament. Et j'y travaille. Je finirai par savoir. Si Clément a changé quelque chose aux dispositions et que je me trouve lésée, je le ferai revenir de lui-même sur sa décision, par mes soins, mon repentir et ma tendresse, par le dévouement que je lui manifesterai. S'il n'a rien modifié encore, je ne lui laisserai pas le temps de le faire.
Tu me fais horreur.
Je te méprise.
Peux-tu redresser mon oreiller, Berthe, s'il te plaît?
Oui. Comme ça?
Oh. Merci. Les picotements semblent s'espacer, mais ce sont toujours ces contractions soudaines qui me font souffrir. Enfin, profitons de ce répit pour parler tranquillement. Mon aimé... Vois-tu, je ne comprends pas qu'on ne mette pas toujours ses affaires en ordre et que l'on ne rédige pas ses dernières volontés.
Ne parle pas de cela en ce moment, Clément. Tu vas guérir, le médecin me l'a promis.
Ma chère petite folle, crois-tu donc que cela fait mourir de mettre de l'ordre dans ses affaires?
Non. Ah. Mais j'ai tellement craint. Cela me fait du mal, excuse-moi.
Oh, ne pleure pas, mon enfant, voyons. Sois raisonnable. Avons-nous été moins heureux parce que le lendemain de mon mariage, j'ai fait un testament qui te lègue toute ma fortune? Et tiens, tu dois en avoir une copie. Sois gentille. Va la chercher.
J'ignore où elle se trouve.
Dans la chambre en haut. Le tiroir de gauche de l'armoire. Va.
Je viens de croiser Berthe, elle revient tout de suite auprès de toi.
Ah, non, non. Mon bon Hector. Au contraire, reste. J'ai demandé à Berthe d'aller chercher la copie de mon testament. Rien que ce mot la met à la torture. Pauvre petite femme. Si je mourais, elle ne me survivrait pas.
Mais tu vas guérir, cher Clément.
Je l'espère bien. Veux-tu, s'il te plaît, m'avancer l'écritoire qui est à droite du secrétaire? Ah, comme cela, merci. Je vais rendre Berthe heureuse. Voilà.
J'ai trouvé. Tiens.
C'est bien cela. Merci. Bien. Très bien. Bon. Bon. Très bien. Prenons la plume.
Tu vas encore te fatiguer.
Je n'en ai pas pour longtemps. Terminé. Tiens, Hector, lis à haute voix.
En ce jour, Saint d'Esprit, bien que souffrant, je déclare n'avoir pas une ligne à changer à ce testament. Jamais je n'ai plus aimé ma femme. Jamais je n'ai tant désiré de la faire héritière si je viens à mourir avant elle. De tout ce que je possède.
Oh. Alors, mes amis, rien à redire? Bien. Rends-moi le document pour que je mette la date et que j'appose ma signature. Ben, c'est fait.
Mais à quoi bon cela?
C'est moi pour te rassurer que pour te prouver combien je t'aime. C'est ma façon de te remercier de tes soins, de ton dévouement.
Oh, mon cher Clément.
Deux jours plus tard.
Alors, docteur, Madame Sauvresy s'est absentée un instant. Que vais-je lui dire?
Notre malade est déconcertant, monsieur. Les accidents anciens se sont édulcorés, certains ont disparu. Et il présente aujourd'hui des symptômes tout à fait contraire. Il ne souffre pour ainsi dire plus. Et cependant, il s'affaiblit davantage. Et il m'est difficile de déterminer la cause du mal, et par conséquent de prévoir son évolution. Jusqu'à présent, le docteur Hérold et moi avons tout tenté. Je pense que nous n'avons négligé aucune des ressources humaines. Nous verrons demain si nous pouvons essayer un traitement nouveau. Ah, Madame Sauvosi.
Je suis heureuse d'avoir pu regagner la maison avant votre départ, docteur. Mais je ne veux pas vous retenir, dites-moi seulement.
Monsieur de Trémoral vous fera part de mes réflexions. Sachez surtout que je compte beaucoup sur l'énergique constitution de Sauvosi.
Mon Dieu, il n'y a donc plus d'espoir.
Il ne faut jamais désespérer, madame, chez les malades aussi jeunes que votre mari. La nature, lorsqu'on s'y attend le moins, fait souvent des miracles.
Pardonnez-moi, je cours auprès de lui et je prierai en moi-même.
À vous, monsieur de Trémorel, je peux le dire très sincèrement, je ne crois pas que monsieur Sauvosi puisse vivre encore plus de 2 jours.
Oh, c'est affreux. Pauvre Berthe.
Vous êtes un homme et vous êtes l'ami. Votre présence est indispensable au mourant lucide et salutaire à sa femme éplorée.
Comptez sur moi, docteur.
De réaliser la prédiction du docteur Rénal.
Écoute.
Plus rien à craindre, Hector. Plus rien. À nous maintenant la liberté, la fortune, la vie, toute la vie, tu entends? 3 millions. Nous avons 3 millions. Ah, je le tiens donc, ce testament. Désormais, il n'entrera plus un homme d'affaires ici. À présent, je vais me hâter.
Tu penseras plus d'une fois à lui.
À Sauvosi? Pourquoi? Crois bien que son souvenir ne me sera pas lourd. J'espère bien que nous habiterons toujours le Valfeuillu, qui me plaît. Seulement, nous aurons un hôtel à Paris. Le vôtre, mon cher comte, que nous rachèterons. Ah, quel bonheur, Hector! Quelle félicité!
Une dernière fois, je t'en conjure, renonce à ce terrible, à ce dangereux projet. Tu vois bien que tu t'abusais, que Sauvrosi ne se doute de rien. Qu'il t'aime toujours.
Ne parlons plus de cela. Il se peut que je me trompe. Il se peut qu'il n'ait que des doutes. Il se peut que, même ayant découvert quelque chose, il espère me ramener à force de bonté. Ce que vois-tu?
Quoi?
Non, rien.
Ce n'est plus possible. Je ne peux plus rester ici. Assister à cette agonie. Je souffre trop, je tremble.
Quel lâche tu fais. Chut. Il y a 3 médecins en consultation depuis 1 heure. Je n'ai pu réussir à surprendre une seule de leurs paroles. Oh, qui sait ce qu'ils disent? Je ne serai tranquille qu'après leur départ.
Le lendemain...
Tu te sens mieux, mon bon Clément?
Ni mieux. Plus mal.
Souhaites-tu quelque chose?
J'ai soif.
C'est aussi l'heure de ta potion. Je vais te la préparer.
Non!
Pardon?
Je dis non. Tu ne prépareras pas ma potion. Tu n'auras plus à la préparer.
Tu éprouves de nouveau un malaise? Clément, tu me fais peur.
Je pense bien que je te fais peur.
Pourquoi me dis-tu cela?
Pourquoi? Approchez tous les deux. Je vais vous le dire. Voilà. Je suis arrivé aux limites de l'énergie humaine. Je ne saurais endurer un jour de plus ce supplice inouï de me voir, de me sentir mesurer la mort lentement, goutte à goutte, par les mains de ma femme. Et de mon meilleur ami.
Clément.
Et je dois vous dire encore, c'est de ménagement, de raffinement. Je souffre. Je souffre horriblement. Tuez-moi. Mais tuez-moi d'un coup, empoisonneur. N'approche pas, Hector, ou je tire.
C'est cette affreuse fièvre qui te reprend, mon bon Clément. Tu es au plus mal, tu délires.
Ah, tu crois vraiment que je délire?
Mais oui, c'est le délire qui peuple de vision ta pauvre tête malade. Tu menaces Hector de ton revolver? Mais comment se peut-il? Lui, ton ami, moi, ta femme, nous qui te sommes si chers.
C'est le mensonge, va. C'est inutile. Je n'ai pas le délire. Le poison n'est que trop réel et je pourrais le nommer sans le retirer de la poche où tu le dissimules. Oh. Je l'ai deviné et reconnu dès le premier moment. Car vous avez choisi un de ces poisons qui ne laissent pas de traces, mais dont les indices ne trompent pas. Rappelez-vous le jour où je me suis plaint d'une saveur poivrée. Le lendemain, j'étais fixé. J'ai failli ne pas être le seul. Le docteur Reynal a eu un doute. Non, non, n'essayez pas de balbutier des mots inutiles. Vous m'écouterez tous deux jusqu'au bout. On s'exerce au poison avant de s'en servir, que Diane. Vous ne connaissez donc pas les effets du vôtre? Comment? Votre poison donne d'intolérables névralgies, des insomnies, dont rien ne triomphe. Et depuis plusieurs jours, vous voyez disparaître ces symptômes. Cela ne vous étonne pas. Vous n'êtes pas éclairé. Vous êtes stupide. Savez-vous ce qu'il m'a fallu faire pour écarter les soupçons du docteur Reynal? J'ai dû taire les souffrances réelles de votre poison et me plaindre de maux imaginaires absurdes. J'accusais précisément le contraire de ce que j'éprouvais. Vous étiez perdu. Je vous ai sauvé. Maintenant, je dois vous avouer que lorsque j'ai appris la cruelle vérité, j'ai vainement cherché à vous punir. Il n'existe pas de châtiment proportionnel à l'offense dans un tel domaine où la passion crée la mesure, donc l'injustice. Mais le jour où j'ai deviné le poison, j'ai eu un tressaillement de joie. Je tenais ma vengeance. Vous vouliez ma mort pour être libre, pour vous marier. Eh bien, c'est là ce que je veux aussi. Le comte Hector de Trémorel sera le second mari de Madame Beuve Sauvrezy.
De Sauvrezy, quelle sera la vengeance? Pour le savoir, ne changez pas de fréquence.
Après l'œuvre d'Émile Gaborio, adaptée par Henri Weitzman,
le 12e épisode du crime d'Orcival.
Avec Didier Conti, Yves Fabrice, François Martouret, Emmanuel Weiss.
Bruitage, Dominique Aubert. Chef opérateur du son, Guy Senot. Collaboration technique, Edwige Philipponna. Assistant de production, Didier Lagarde. Réalisation, Jeanne Rollin-Weiss.
Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 25 août 1984. Demain, à la même heure, une vengeance parfaite.